Focus.
Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, focus sur la recherche. On le sait, établir un diagnostic de la maladie d'Alzheimer est un processus assez complexe. Or, il est essentiel pour une prise en charge et un suivi adapté à chaque patient pour augmenter les chances de ralentir l'évolution de la maladie et atténuer les symptômes. C'est donc un enjeu crucial qui est au cœur de la recherche. Dans ce cadre, est-ce que l'intelligence artificielle pourrait contribuer à une détection plus précoce de la maladie d'Alzheimer ? C'est en tout cas l'un des objets de recherche de notre invitée, Madame Ninon Burgos, neuroscientifique, chercheuse CNRS en imagerie médicale à l'Institut du Cerveau. Bonjour Madame Burgos et merci d'être avec nous.
Bonjour et merci de m'accueillir.
Dans le cadre de vos recherches, vous avez développé une méthode pour détecter au plus tôt des lésions cérébrales, alors caractéristiques de la maladie d'Alzheimer qui nous intéresse pour notre émission, mais pas seulement, puisque cela vous permet aussi d'étudier d'autres maladies neurodégénératives. Alors votre méthode, elle combine l'imagerie cérébrale et l'intelligence artificielle, on va y venir. Mais déjà, première étape concernant l'imagerie cérébrale, est-ce que vous pouvez nous expliquer quel type d'imagerie vous utilisez et ce qu'ils permettent d'observer dans le cas de la maladie d'Alzheimer ?
Alors, plusieurs types d'imagerie peuvent être utilisés dans le cadre de la maladie d'Alzheimer et de l'étude des autres démences. Dans mon cas particulier, j'en utilise deux. La première modalité d'imagerie, c'est l'IRM, donc imagerie par résonance magnétique, et une séquence particulière d'IRM. Parce qu'avec l'IRM, on peut obtenir plein d'images différentes. Moi, je travaille avec ce qu'on appelle l'IRM structurel, qui permet de distinguer les principaux tissus du cerveau, donc principalement la matière grise et la matière blanche. Pourquoi est-ce que ça nous intéresse ? Parce que dans la maladie d'Alzheimer, ce qu'on observe, c'est une perte du tissu cérébral, donc une perte de matière grise, là où il y a le corps des neurones. Et ça, ça se voit du coup très bien avec ce type d'image-là. Et du coup, j'utilise également une autre modalité d'imagerie parce que la perte des neurones ne se fait pas du jour au lendemain. Il y a tout un processus qui mène et dans ce processus, il y a une phase où les neurones vont consommer moins de sucre et on peut visualiser la consommation de sucre par les neurones grâce à une autre modalité d'imagerie qu'on appelle la tomographie par émission de positons, qui est plus connue sous le nom de PET scan en anglais. Donc ça, c'est une autre modalité d'imagerie que je vais utiliser beaucoup parce qu'on peut voir à quel point les neurones consomment du sucre ou pas. S'ils en consomment beaucoup, c'est qu'ils sont plutôt en bonne santé. S'ils se mettent à moins consommer de sucre, c'est qu'ils commencent à être en moins bonne santé, sont les premiers signes de neurodégénérescence.
D'accord. Donc, quand vous utilisez le TEP scan, vous pouvez voir les premiers signes biologiques, c'est-à-dire, enfin, vous pouvez voir du coup que les neurones consomment moins de sucre, donc qu'ils sont moins efficients, on va dire. Et petit à petit, au fil des TEP scans, vous pouvez voir comment ils diminuent puis comment ils disparaissent. C'est ça ?
C'est exactement ça. On commence à voir les premiers signes que les neurones fonctionnent moins bien grâce à la TEP ou PET en anglais. Change l'ordre des lettres. Et à un stade plus avancé, une fois que les neurones sont morts, en fin de compte, il y a une perte vraiment de matière grise et ça se voit à l'IRM structurel.
D'accord, donc l'enjeu est très important déjà, ne serait-ce qu'avec l'imagerie cérébrale, c'est-à-dire que vous pouvez déjà déceler des problèmes de fonctionnement des neurones avant que des patients ne présentent peut-être certains symptômes apparents de la maladie d'Alzheimer, c'est ça ?
Exactement. On arrive à voir les signes des anomalies dans les images cérébrales avant qu'on ait des symptômes cliniques comme les pertes de mémoire.
D'accord. Donc, on a un enjeu très important déjà pour un diagnostic précoce. Et alors, à quel moment l'intelligence artificielle entre-t-elle en jeu dans votre méthode et quel est son rôle ?
Alors, moi, j'utilise l'intelligence artificielle pour aller détecter de façon automatique s'il y a justement des anomalies dans le cerveau. Donc des anomalies, c'est quelque chose qui sort de la norme de ce qu'on peut attendre d'un cerveau sain, qui est spécifique à un âge donné, bien évidemment. Mais voilà, c'est tout ce qui sort de ce qu'on s'attend à voir dans une image de cerveau de quelqu'un qui n'est pas atteint par une maladie.
Donc l'idée, c'est de pouvoir détecter sans a priori de manière automatique des lésions voilà, dans le cerveau, c'est-à-dire qu'on peut peut-être les déceler, j'imagine, à des endroits auxquels on ne penserait pas forcément trouver la maladie d'Alzheimer. Ça, c'est une possibilité?
Oui, tout à fait. Ce que la méthode fait pour détecter des anomalies qui peuvent du coup se trouver dans différentes parties du cerveau, c'est de recréer ce qui serait l'image saine du patient que on est en train d'étudier.
D'accord. Et donc, comment est-ce que vous obtenez ces résultats?
Alors, on entraîne une intelligence artificielle à faire cette tâche. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va lui montrer énormément d'exemples d'images qui viennent de sujets sains, donc qui ne présentent pas d'anomalie. Donc, on va montrer à certaines intelligences artificielles plein d'exemples comme ça, qui va faire que l'intelligence artificielle va comprendre ce qu'est l'image de sujet sain. Ensuite, on va présenter à cette intelligence artificielle l'image d'un patient qui, du coup, présente peut-être des anomalies. Et ce que l'intelligence artificielle va faire, c'est nous produire, nous donner ce que serait, du coup, l'image de ce patient si ce patient était sain, ne présentait aucune anomalie. Parce que l'intelligence artificielle qu'on a entraînée, elle ne sait faire que ça. Elle ne sait que générer des images qui ne présentent pas d'anomalie. Et la chose qu'on peut faire ensuite, c'est comparer la véritable image du patient que nous sommes en train d'étudier à l'image qui a été reconstruite par notre intelligence artificielle. Et en faisant la différence entre ces deux images, eh ben, on peut détecter des anomalies. Ce sont uniquement les anomalies qui vont ressortir, si elles existent, bien sûr.
L'intelligence artificielle a donc du bon. Et vous allez même encore plus loin que la comparaison d'un cerveau sain et d'un cerveau atteint par la maladie. Votre méthode, elle consiste notamment à avoir une version personnalisée, donc qui tient compte de l'anatomie précise du cerveau de chaque patient. Est-ce que vous pourriez nous expliquer ça?
Alors oui, la méthode aussi repose sur le fait que pour une anatomie donnée, on ne peut pas obtenir n'importe quelle image de tête. L'image de tête doit correspondre à l'anatomie du patient qu'on est en train d'étudier. Et donc, on utilise cette information de l'anatomie du patient pour recréer qui doit être normalement l'image de tête qui est associée à cette anatomie. Et donc, encore une fois, ça nous permet de pouvoir créer une image d'apparence saine, mais qui correspond vraiment au patient que nous sommes en train d'étudier. On ne génère pas n'importe quelle image d'apparence saine. Elle est vraiment spécifique au patient qu'on est en train d'étudier.
D'accord, donc ça prend en compte l'âge, la morphologie, ce genre de choses, c'est ça?
Exactement.
Okay.
La morphologie, c'est une chose, et puis aussi, effectivement, l'âge, parce qu'on sait qu'avec l'âge, bah, y a une moindre consommation de sucre, il y a aussi déjà une petite perte de tissu cérébral, mais qui est tout à fait normale. Donc ça, on le prend bien évidemment en compte.
À l'heure actuelle, où en est cette méthode? Vous en êtes à quelle étape?
Alors, nous sommes sur deux étapes principales. L'une consiste à valider l'approche, donc vraiment à la confronter à des exemples, des cas concrets, mais toujours dans un contexte de recherche. Et en parallèle, on essaye toujours d'améliorer la méthode pour pouvoir générer des images d'apparence saine qui sont les plus précises possibles. Vraiment, on est sur les deux fronts en même temps. Mettre en place des processus et des procédures de validation de la méthode et en parallèle, continuer à essayer de l'améliorer.
D'accord. Et alors, avec votre méthode, l'utilisation de l'intelligence artificielle se ferait donc au service du diagnostic comme un support pour l'équipe médicale. L'idée, ce serait que cette méthode et donc votre algorithme soit accessible dans différents établissements hospitaliers, auprès de certains centres. Quel serait du coup l'objectif et la forme? Ce serait sous la forme d'un logiciel, par exemple, qui serait accessible aux médecins?
Alors ça, c'est l'objectif à très long terme qui est difficile à atteindre par une équipe de recherche seule. Il faut bien sûr obtenir des certifications, ce genre de choses qui va un peu au-delà de ce qu'on peut faire à l'échelle d'une équipe de recherche. Mais par contre, ce qu'on peut faire à notre échelle, c'est mettre cet outil à disposition des cliniciens dans le cadre de la recherche clinique, ça c'est possible. Et effectivement, ça viendrait sous la forme d'un logiciel. On pourrait simplement donner en entrée l'image du patient qu'on est en train d'étudier et en sortie, on aurait une carte qui présenterait potentiellement des anomalies que du coup le clinicien pourrait analyser en même temps qu'il analyse l'image du patient. Il pourrait à la fois regarder l'image du patient et la carte d'anomalie pour peut-être mieux visualiser des petites anomalies qu'il aurait pu ne pas détecter sans l'assistance de l'outil informatique. Donc ça, atteindre le stade d'utilisation dans un cadre de recherche, c'est quelque chose qu'on peut tout à fait faire. Et ensuite, pour passer vraiment à l'utilisation en routine clinique, là, c'est quelque chose qui demande beaucoup plus de travail et qui ne peut pas être fait par une équipe de recherche seule.
Très bien. On espère du coup que vous puissiez réunir tous ces éléments pour que ce soit accessible au plus vite, entre guillemets, bien sûr, même si tout ça prend du temps. Eh bien, merci beaucoup, Madame Burgos, d'avoir pris le temps de nous éclairer sur ce sujet et surtout pour vos recherches, bien sûr.
Merci à vous et à bientôt.
Et merci à vous qui nous avez écoutés. En attendant de nous retrouver, je vous invite à écouter ou réécouter nos émissions sur le site de radiofrancealzheimer.org et sur l'application.
C'était Focus, le podcast qui s'intéresse aux initiatives, à la recherche et au quotidien autour de la maladie d'Alzheimer.